Accès libre avec Luc Fortin.
Dernier lundi du mois de novembre. Jean-Sébastien, je suis content que tu sois là. Je sais que je vais pouvoir avoir un resounding board. J'ai trouvé ma run en transport adapté pénible.
Un resounding board?
Ah, c'est parce que je sais que tu m'écoutes.
OK. D'accord.
Le gars, c'est pas de sa faute à lui, là. Il m'a ramassé à 11h moins quart. À 11h11, j'étais à un coin de rue de chez moi.
Hit boy.
Ça aurait été le fun d'avoir ce 25 minutes-là et pas être obligé d'écouter du compas avec ordinateur, Casio et le disque était rayé.
Wow.
Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, les amis. Je sors du char et là, vous êtes obligés de me subir. Mais c'est pas aussi pire qu'à Blanc-Sablon. Il y a pas de transport adapté depuis le 4 novembre. On va aller faire un tour du côté de Blanc-Sablon, répondre à mes déceptions. Il sera question d'Élections Québec qui veut savoir comment allons-t-on chercher nos informations à l'approche du vote. Et une numéro 1 mondiale. Jean-Sébastien, petite question.
Oui.
Savais-tu, toi, qu'à Blanc-Sablon, qui fait partie du Québec continental, ils sont une heure plus tard que nous?
Ça fait partie des choses. Si j'avais eu à deviner, j'aurais probablement dit oui, mais j'aurais pas été capable de l'identifier sur une carte du Québec.
Ben, c'est ça, Côte-Nord.
Oui, mais c'est grand, la Côte-Nord.
Ben, ça a l'air. Dominique, toi, savais-tu ça, que Blanc-Sablon était une heure plus tard, même si c'était dans le Québec continental?
Pas en tout. Mes cours de géographie sont bien, bien, bien loin.
Allison Levine, toi, est-ce que tu sais où est situé Blanc-Sablon?
Aucune idée.
Bon. Ben maintenant qu'on a mis la table, on va parler de Boccia. C'est tout à fait moi, ça. Allison, bravo. Si je me fie aux articles que j'ai lus, là, t'es numéro un depuis octobre.
Oui, ça semblait, oui.
Et je disais à Christiane, hey, si c'était Chapeau Valov qui était numéro un, toutes les stations en parleraient. Donc, il faut absolument parler à Allison. Elle est quand même numéro un mondial en boccia. Dominique, là, au Québec, on dit le boccia?
Tout à fait.
Parfait. Alors.
C'est dans les continents européens qu'on dit la boccia, puis les oreilles me cillent à chaque fois.
Ben oui, parce qu'ils disent la batte aussi pour le bâton de baseball, puis la 5G au lieu de le 5G. Allison, quand tu as décidé de te lancer dans ce sport-là, tu pensais pas monter aussi rapidement au haut du classement ou tu avais confiance en toi puis tu savais que moi, quand j'entreprends quelque chose, ça fonctionne?
C'était plus par hasard. Quand j'ai commencé, comme tu as dit, j'ai monté assez vite. Mm-hmm. Que moi, j'ai presque pas eu le temps de prendre la décision moi-même que c'est quelque chose que je veux faire comme carrière, c'est quelque chose, je vais aller au Paralympique. J'ai pas vraiment eu le décision, ça juste ça arrivé.
Ouais.
C'était un processus qui est arrivé, puis quand je regarde maintenant le cheminement, je suis quand même un peu... surpris moi-même.
Ouais, ouais. Rappelle-moi, là, j'essaie de fouiller dans ma mémoire. J'étais allé chez toi avec un caméraman et ça faisait pas longtemps que tu avais été frappé par une voiture, il me semble.
Non.
C'est-tu toi, ça? Non, ça, c'est pas toi, ça.
Non.
OK. Enfin, je sais qu'on s'est déjà parlé, mais j'essayais de trouver le contexte de cette entrevue-là.
Là, ça devrait être plus que 2 ans parce que j'étais encore chez mes parents.
Oui, ça c'est clair, tu étais chez tes parents, oui. Tu n'avais pas commencé encore le sport. Que veut dire la classification BC4?
Alors, chaque sport paralympique, chaque athlète a une classification qui fait que le sport est égal pour tout le monde. C'est comme pour quelqu'un qui est un amputé d'un bras, compétition pas contre un quadriplégique, par exemple. Alors, au boccia, il y a 4 classifications. Le BC4, c'est pour quelqu'un qui a une déficience aux 4 membres et au tronc. Alors, un handicap assez sévère. mais qui lance encore la balle, parce qu'au boccia, on peut jouer aussi avec un rein.
Ouais.
Et il faut pas avoir le paralysie cérébrale, parce que le boccia était créé pour des personnes avec paralysie cérébrale. Mm-hmm. Alors, le classe BC1 et BC2, c'est pour un, puis le BC4, c'est pour les ailleurs.
OK. Dominique, où se situent les forces d'Allison?
Principalement, c'est dans sa force de déplacement des balles. Quand on regarde la façon dont Allison joue, elle va souvent placer une balle quelques pouces en avant de la blanche et va utiliser sa deuxième balle pour pousser cette balle là sur le cochonnet, ce qui lui permet d'avoir une balle
gardée,
qui protège
sa
rouge qui est la plus proche du cochonnet.
Okay.
Ça, c'est sa force. Et quand toutes les balles sont collées, Allison est une des meilleures au monde pour être capable de se créer une ouverture pour rajouter des points.
OK. Au niveau, là, je pose la question, tiens, peut-être Dominique, au niveau, parce que c'est technique, là, mais que veut dire les rangs? C'est classement numéro un. Bon, souvent au tennis, plus t'es haut, plus tu prends des adversaires qui sont moins forts en début de tournoi, plus t'es pas obligé de te qualifier. Quels sont les avantages à être classé d'une façon, comme dans ce cas-ci, numéro un?
Ben, un peu, ça va être exactement comme okay. le tennis.
OK.
Donc, c'est en étant numéro un, c'est elle qui va avoir, en théorie, les poules les plus faciles au début de tournoi.
Okay.
Et après ça, les rondes éliminatoires, c'est elle qui va avoir le seed numéro un, là, donc la place numéro un sur le tableau d'éliminatoire, donc qui va donner une route plus facile vers la finale. Ça, c'est la théorie. En pratique, Allison va me faire plaisir en me disant c'est rare que ça marche comme ça.
Ah oui, hein?
Mais c'est souvent l'avantage d'être le classé le plus haut mondial qui peut lui donner. Donc, c'est un bon avantage menant vers Tokyo 2020.
Mis à part la fierté, Allison, est-ce que justement, toi, tu y vois des avantages certains à avoir un classement aussi avantageux? Ça fait beaucoup d'avantages dans ma phrase. Là, mais
moi,
bon.
Je dirais l'avantage, c'est plus quand tu as cette statut-là, tes adversaires vont être un peu plus anxieux de jouer contre toi. Comme okay. Dominique dit, en principe, sur papier, ça devrait être un route plus facile. Mais en général, depuis que je suis première, honnêtement, j'ai des poules plus difficiles qu'avant. Alors...
Ah oui,
pas effectivement. Ouais.
OK, OK.
Ouais.
Est-ce que tu préfères le simple ou le double? En équipe ou...
Les deux également. Okay. C'est un jeu complètement différent.
Pourquoi?
Oh, ça change la dynamique quand il faut travailler avec quelqu'un. Quand tu as juste trois balles, puis ton coéquipier a trois balles aussi, les angles sont très différents sur le jeu, mais surtout de prendre une décision... cohésive ensemble. Mm-hmm. Ça fait la différence. Quand tu es seul, tu peux avoir le crainte que je suis seul, tout le responsable est sur moi, mais
ouais.
aussi tu peux prendre ça comme un positif, comme c'est toute ma responsabilité. J'ai mes 6 balles, je peux jouer à mes forces, puis j'aime les deux également.
Supposons que tu ne joues pas avec le numéro 1 mondial, puis toi, tu es numéro 1 mondial, puis tu sens que ton coéquipier ou ta coéquipière, bon, dans ce cas-ci, c'est la plupart du temps, c'est un coéquipier, là, mais il est moins fort, puis il manque son coup, puis comment on fait en équipe pour justement accepter que des fois, c'est lui qui va manquer, puis d'autres jours, c'est moi qui va manquer, puis c'est la vie?
C'est exactement assez simple que ça.
Okay.
Il faut juste rappeler que on a tout des, on rate, tout le monde rate, c'est ça le sport.
Mm-hmm.
Si tout le monde était parfait, il y a pas de sport. Puis des fois, tu commences d'être un peu pas content parce qu'il joue pas à son meilleur. Mais là, tu dis, hey, il y a une semaine, c'était moi. Puis on perd ensemble, puis on gagne ensemble. C'est
ouais.
ça une équipe.
Ouais. Dominique, est-ce que... Oui, vas-y.
Je veux juste rajouter quelque chose. Le parfait exemple, c'est lors du dernier tournoi d'Allison en double. au Portugal. Ils devaient terminer au moins dans les 3 ou 4 premiers pour assurer leur qualification pour les Jeux paralympiques. Et ils ont gagné la médaille d'or. Alisson a très bien joué, mais son partenaire, Julian Chiabanou, a connu le meilleur tournoi que j'ai vu jouer là, bon, depuis 4 ou 5 ans. Puis ça a été vraiment un travail d'équipe qui fait que le Canada est monté sur la plus haute marche du podium. Et puis qui là maintenant sont classés 4e au monde en double pour les Jeux de Tokyo. Donc c'est vraiment en double un travail d'équipe. Puis des fois, il y a des. Alisson va avoir une bonne journée, son coéquipier va avoir ses bonnes journées à lui. Donc, ouais. C'est vraiment un échange.
Mais en même temps, il y a quand même, j'imagine, des atomes crochus ou pas, parce que on voit des doubles, des partenaires en double au tennis, puis de temps en temps, il y a des duos qui vont se défaire, puis à un moment donné, un va décider, ben là, je vais aller avec un autre. Donc, est-ce que c'est l'entraîneur ou c'est le joueur qui décide avec qui il va jouer en double?
En double, ouais, je vais y aller, Alisson, si ça ne te dérange pas.
C'est
en double, ça fonctionne par pays. Donc, Alisson n'a pas le choix de jouer avec des athlètes du Canada.
Oui, OK.
Puis, l'équipe est composée de 3 joueurs. Et l'équipe, c'est toujours ces 3 mêmes joueurs-là que l'entraîneur ou le comité de sélection du Canada choisit.
Okay.
Et ils vont jouer ensemble tout au cours de l'année. Là.
Mais en même temps...
Qui est sur le banc, puis ils peuvent faire des substitutions au cours du match.
OK! Ah oui, ça peut se faire comme ça.
Oui, c'est ça.
Tu parles d'une affaire. Est-ce qu'on peut dire que le boccia est en ascension, ça stagne, ou il y a peut-être une régression? À un moment donné, les joueurs vieillissent, puis il n'y a pas de relève?
Ben, je pense qu'Alisson peut donner le une réponse par rapport au niveau de jeu. Là, ça va être très
moi, depuis que j'ai commencé, le sport a grandi énormément, juste au nombre de pays qui participent.
Okay.
Mais le niveau de jeu dans chaque catégorie a juste monté extrêmement vite. Honnêtement, c'est surprenant quand tu vois des joueurs qui, il y a un an, étaient... un peu comme moi, j'étais classée très bas, puis j'étais au début, puis là, quelques ans plus tard, je suis première au monde. Il y a beaucoup des cas comme ça, des personnes qui montent le classement très, très vite.
Ouais.
Dans notre catégorie, la plupart de nous, on a une dystrophie musculaire. À l'heure certaine, il y a des personnes qui performent moins bien. Mais nous, on est comme des experts en adaptation. Puis quand on n'est pas capable de faire quelque chose, on trouve une nouvelle façon de jouer.
Oui, c'est intéressant, ça. Donc, le pays va également influencer dans sa façon d'aider l'individu là, dans son adaptation ou sa réadaptation. En terminant, il peut y avoir combien de tournois par année? Parce qu'il me semble, Alisson, t'es souvent parti. Puis Dominique aussi, tiens.
Mais BICET, qui est la Fédération internationale, organise à peu près entre 10 et 12 tournois internationaux par année. Et le Canada peut participer à 4 ou 5 d'entre eux, là, dépendant des années. Là.
Qui décide? Donc, c'est le Canada qui décide 4 ou 5 ou c'est la Fédération?
C'est un mélange des deux. Là. Ils doivent
se qualifier
pour certains et d'autres, ils vont dire on va aller à celui-là au lieu de celui-là et ainsi de suite. Là. Mais c'est un mélange des deux.
Okay. Parce que je sais qu'en équipe, vous êtes terminé 3e en octobre et 1er en novembre, Alisson, c'est ça?
Oui, on a eu une médaille de bronze au Parapanam, une médaille de bronze au Regional Championship, puis une médaille d'or au European Open.
OK. Et est-ce que c'est confirmé pour Tokyo ou pas encore?
Sur papier, techniquement, il faut attendre janvier, mais il n'y a aucune chance que j'ai mon spot individuellement à Tokyo, puis on a notre place BC4 en double aussi.
Je ne suis pas sûr j'ai compris.
Il n'y a pas de chance qu'on ne peut pas se qualifier.
Okay.
Personne ne peut
Parfait.
Nous rattraper.
Fait qu'on veut juste que tu ne te blesses pas d'ici au Paralympique.
Non, on croise les droits.
C'est important. Ben, bravo, lâche pas, surtout amuse-toi. Dominique, merci comme toujours. Et ben, on va continuer de vous suivre.
Merci beaucoup.
Monsieur La Liberté, c'est qu'on a Sonia Johnson?
On a Sonia Johnson, tirée de son plus récent album qui s'intitule Chrysalis, et qui était de passage ici même dans nos studios.
Oh ben tiens, toi!
Ben oui, ben oui.
Ah, j'aurais voulu faire mieux que j'aurais pas pu.
J'aimerais te poser une question. Queremos saber si lo hicieron. Sabemos nada.
We need to know. C'est à mon oreille à moi, l'album de Sonia Johnson que je préfère. L'accent peut déranger certaines personnes, j'avoue. Et étonnamment, la pièce titre est probablement la moins accessible. Je suis étonné que ce soit la pièce titre de l'album We Need to Know, donc Sonia Johnson, Madame Campagna, pendant qu'on essaie de joindre Julie Saint-Arnaud. Drelette, tu vas bien?
Oui, je vais très bien, toi.
Ouais, merci, c'est gentil. On va parler d'élection. Toi, tu veux me parler du site web? Tant qu'à?
Oui, ben un petit peu. Ben, je sais que les gens d'Accès Libre sont habitués à ce que les émissions aient un découpage où on peut séparer chacune des entrevues de l'émission. Malheureusement, on rencontre des problèmes techniques ces jours-ci avec le site web qui m'empêche de le faire. Alors, l'émission entière demeure disponible, celle de la semaine passée, celle d'aujourd'hui le sera dès cet après-midi sur toutes les. Et ensuite, ça va s'en aller vers les différentes plateformes. Mais il n'y aura seulement pas l'option
Des segments, là, individuels. Des segments. Ouais. En tout cas, pour le moment.
Oui, voilà. Et ouais. Je pense que Mme Arnaud est là.
Moi, je suis sûr. Moi, je suis certain qu'elle est là, mais je veux juste dire aux gens que quand même, c'est toujours possible de télécharger, donc de s'abonner à Accès Libre en balado, même si j'ai moi aussi des petites difficultés, mais je me suis désabonné et réabonné. Je pense que c'est réglé. Julie Saint-Arnaud, Drolet, rebonjour. On s'est parlé au mois d'octobre.
Oui, absolument. Bonjour.
On va en faire une habitude, vous qui êtes porte-parole d'Élections Québec. Un sondage d'Élections Québec pour savoir comment s'informent les personnes en situation de handicap. Quand vous dites « s'informe », est-ce qu'on parle des programmes politiques ou de « où dois-je aller voter lorsque le grand jour arrive »
On est vraiment dans le « où dois-je aller voter »
okay.
Parce que c'est sûr que notre institution, on ne fait pas la promotion des programmes des partis politiques, donc c'est vraiment de l'information pour pouvoir accéder au vote.
Ouais. Tiens, juste pour le fun, savez-vous c'est quand la date du prochain scrutin provincial? Moi, je ne le sais pas, là. Vous avez le droit de ne pas le savoir.
Le prochain scrutin provincial, ouais. Ça va être en 2022, okay. La date exacte. Okay. Là, j'avoue que non.
Ouais, ma recherchiste arrive, là, elle me trouve crapaud
oui.
Un peu.
Mais on a une élection partielle à Québec en ce moment
c'est vrai,
Jean-Talon,
la semaine prochaine?
Donc le 2 décembre, il y aura un scrutin dans la circonscription de Jean-Talon. Alors, parfait. Au moins, j'ai cette date-là.
Bon. À qui s'adresse le sondage? Bon, on a parlé de personnes en situation de handicap, mais encore?
Oui, de façon plus particulière, bien, on parle vraiment, on souhaite vraiment avoir le son de cloche des personnes aveugles, malvoyantes ou encore qui ont des difficultés de lecture. La situation, je vous l'explique, c'est que lors d'une élection, les électeurs, on leur envoie deux cartes d'information par la poste. Donc, il y a une première carte qui est envoyée sous enveloppe, qui vise d'abord à valider l'inscription de la personne sur la liste électorale, puis à fournir l'adresse des lieux de vote par anticipation. Et il y a une deuxième carte d'information qui est envoyée, cette fois-là sans enveloppe, et elle vise à donner l'adresse du lieu de vote le jour de l'élection et la liste des personnes candidates.
OK, ça c'est la carte que normalement je mets à la récup parce que je pense que c'est un carton publicitaire.
C'est ça qu'on a eu comme son de cloche, que lorsque ce n'était pas sous enveloppe, notamment, généralement, ben les personnes aveugles ou malvoyantes comprennent pas, pensent que c'est de la publicité et s'en débarrassent.
Ben oui.
Puis c'est pour nous évidemment un obstacle à leur participation électorale et c'est la carte aussi qui indique l'accessibilité des lieux de vote.
Mm-hmm.
Alors là, on se rend compte que il y a quelque chose, il faut s'améliorer là, parce que la pleine participation de l'ensemble des électrices et des électeurs nous tient à cœur et c'est pour cette raison-là qu'on va de l'avant avec ce sondage-là. Donc à la suite des dernières élections générales, il y a des citoyens qui nous ont informé que le format papier des cartes était un obstacle et il y a aussi les membres de notre comité accessibilité.
Okay.
Ça, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Donc, ce sont des citoyennes et des citoyens qui vivent différentes situations de handicap.
C'est ça, je sais que Marie-Ève Veilleux est sur le comité, mais étant fauteuil, qui représente les gens dans ma situation, le savez-vous? C'est correct si vous ne le savez pas?
C'est Mme Anne Pelletier.
Anne Pelletier, OK.
Qui est une personne aveugle, donc qui est sur le comité avec nous.
Parfait.
Donc, c'est vraiment un groupe de... je pense qu'ils sont 7. On dirait que j'ai un
monsieur,
plan.
C'est beaucoup de
monde. Et c'est un groupe de nature consultative qui réunit des personnes qui ont des handicaps ou qui ont une expertise en matière de droit de vote. Ils se rencontrent deux fois par année à Québec et ils nous conseillent autant en amont qu'en aval sur nos actions en matière d'accessibilité. Alors là, ils avaient levé un drapeau à la suite des dernières élections générales pour nous dire vos cartes d'information, là, il y a matière à améliorer tout ça. Et voilà pourquoi on entreprend ce sondage-là.
Est-ce qu'il y aura un lien avec le fait que c'est la première fois que la CAQ entre, que les aveugles n'ont peut-être pas voté? Je sais pas, je dis ça comme ça. Lorsqu'on fait le recensement au Canada, je pense qu'on ne marque pas si la personne a une limitation fonctionnelle. Donc, comment savez-vous qu'au 6277, je dirais pas la rue, Luc Fortin est aveugle quand vous envoyez la petite carte?
Bien, on ne le sait pas, effectivement. De notre côté, la liste électorale, elle est provinciale, donc c'est au Québec. Mm-hmm. La loi est claire quant aux renseignements qu'on peut recueillir sur un électeur. On parle de son nom, de sa date de naissance, de son sexe et... je pense que c'est tout exact. Donc, il n'y a pas de renseignements d'aucune nature là, sur une présence de limitation fonctionnelle ou de handicap.
Donc, ça ne peut pas être qu'on lui envoie en braille de la documentation. Alors, ça ne sera pas évident de trouver une solution.
Bien, en même temps, il y a différents outils qui sont à la disposition des électeurs sur notre site Web. On a des trousses aussi d'accessibilité depuis les dernières élections générales de disponibles dans les lieux de vote. Donc, on est quand même capable de mettre en place des mesures. Mais dans ce cas-ci, effectivement, il faudrait peut-être procéder autrement. On donne des exemples dans notre dans le sondage qui a cours présentement, là. Quand on demande aux gens justement quels moyens pourraient être intéressants pour vous, est-ce que c'est d'appeler Élections Québec pour recevoir l'information? Est-ce que ce serait de consulter le site Web? Est-ce que ce serait un abonnement à un service sécurisé pour recevoir l'information par courriel, par message texte, par téléphone? Donc, tu sais, c'est des options qui pourraient être mises en place, là.
Je remarque que vous utilisez Google Form.
Pour ce sondage-ci, oui.
Ouais, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour s'assurer que tous puissent avoir un accès complet?
Mais c'est sûr qu'il y a toujours les préposés de notre centre de renseignement qui peuvent assister la personne par téléphone pour le remplir avec elle. Alors ça, c'est une option qui pourrait être utilisée.
Et ça, Julie, c'est moi qui dois les appeler ou eux qui vont m'appeler?
Mais ça serait vous parce qu'on n'a pas vos
vous savez
coordonnées.
Pas que... D'accord.
Non, c'est ça. Okay. On est passé par, on a choisi comme moyen de communication de passer aussi par les associations qui œuvrent auprès des personnes qui peuvent avoir différents types de handicaps. Je sais que l'information a été beaucoup communiquée par là. Ouais. On a mis aussi une actualité sur notre site Web, donc les gens qui veulent accéder au sondage peuvent aller sur le Web. On y accède au www.election.québec/accessible. Maintenant, si vous appelez à notre centre de renseignement, on peut aussi faire ça avec vous.
Il n'y a aucun lien avec un renouveau du mode de scrutin. Ça n'influencerait en rien la façon que le vote aurait lieu, j'imagine. Donc, un n'empêche pas l'autre d'avancer, là.
Non, exact. Okay. Les modes de vote, hein, ils sont tous indiqués de façon très explicite dans la loi. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre en application ce que le législateur, donc les députés à l'Assemblée nationale, ont prévu dans la loi électorale. On n'est pas en mesure de modifier les types de votes sans passer par l'Assemblée nationale, finalement, qui devrait modifier la loi. Par contre, dans la façon d'informer les électeurs, ben, on aurait peut-être cette latitude-là pour s'ajuster, pour s'assurer que les gens aient l'information.
Et pensez-vous que ça va se faire d'ici au prochain scrutin provincial?
Ben, je pense que c'est dans nos objectifs de le faire d'ici là, oui.
Bon. Je sais pas de quoi on va se parler en décembre, mais on trouvera bien. Julie Saint-Arnaud Drolet, qui est porte-parole d'Élections Québec, merci beaucoup d'avoir été là. Et tiens, rapidement, où puis-je aller répondre au sondage?
Oui, donc à l'adresse www.election.québec/accessible. Si vous allez sur le site Web d'Élections Québec, c'est aussi accessible là, par la section des nouvelles, des actualités. Là, on a mis le tout en ligne pour vous.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci. Une belle journée.
On s'arrête deux minutes. Puis ensuite, soit Christiane, soit la mairesse de Blanc-Sablon. On va voir si Christiane a tout dit.
Écoutez Accès libre.
Avec à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté et Christiane Campagnat à la recherche et qui nous prête également parfois ses compétences au niveau du contenu. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment. Je me demandais si Christiane avait tout dit. Tu me dis que non.
Ben, il y a quelque chose dont je voulais parler et c'est les signatures de courriel.
Ouais.
Parce que c'est venu à mes pensées la semaine dernière, justement, avec des échanges avec Mme Saint-Arnaud. Mm-hmm. Je suis venue pour... C'est peut-être relié au fait aussi que dans la feuille de route, j'avais fait une faute dans son nom. Je suis venue pour juste copier les informations de sa signature pour les mettre dans la feuille de route. Et ce n'était pas possible parce que c'était comme une espèce d'image. Souvent, les gens font ça en signature de courriel. Et c'est comme si c'était une carte d'affaires, si vous voulez, dont on mettait la photo au bas de nos courriels. Mais ça, c'est pas accessible. Alors, j'ai parlé à Mme Saint-Arnaud, je lui ai écrit, je lui ai dit, je me suis dit que, vu justement le sujet dont on allait parler avec elle, que ça l'intéresserait et que si elle avait fait directement affaire avec toi, t'aurais pas su son nom, ni son numéro de téléphone, parce que c'était un courriel média, il n'y avait pas son nom dans son nom de courriel, tout ça. Et tout de suite après, Mme Saint-Arnaud a changé sa signature.
Oui!
Ah, alors, tout d'abord, bravo, Mme Saint-Arnaud.
Tout à fait.
Donc, j'essaye de changer le monde
un courriel à la fois.
Mais je vais en profiter pour rappeler aux gens Dans le temps des fêtes, ici à Canalem, on reçoit beaucoup de cartes de vue virtuelles, notamment d'organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap. Mais selon le handicap représenté par l'association, on ne pense pas nécessairement à ces choses-là. Et ce sont souvent des cartes avec entièrement le texte sous forme ouais. d'image. Donc, je ne peux pas les envoyer à Luc pour qu'il puisse profiter de vos vœux.
Bien, écoutez, vous m'appellerez un moment donné parce que j'avoue, moi, quand je vois carte de souhait ou meilleur vœu dans l'objet, je fais supprimer là, tellement rapidement. Alors, mais
c'est une façon, bonne, par exemple. C'est une façon de dire de commencer oui. par le milieu du handicap oui. Pour donner l'exemple au grand public.
Tout à fait, tout à fait. Merci, Christiane. On se transporte du côté de Blanc-Sablon où ni Jean-Sébastien, ni moi, ni Allison, ni Dominique savions que vous étiez une heure plus tard, même si vous faites partie du Québec continental. Bonjour, mairesse Beaudoin, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Good. Wanda Beaudoin, avec qui on voulait parler aujourd'hui, parce que pour ce qui est des déplacements en transport adapté, depuis le 4 novembre, ça ne fonctionnait plus. Bonne nouvelle, coup de théâtre, semble-t-il qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi vous avez décidé vous-même de transporter les gens du point A au point B?
Non, pas du tout. Non, c'est que M. Dumont est en attente d'une subvention de Transport Québec. Le dossier est résolu depuis la semaine dernière, depuis vendredi dernier.
Okay.
Donc, M. Dumont, suite aux interventions faites par Transport Québec, puis suite au contact que M. Dumont a eu avec Transport Québec, il a décidé de réactiver ses services aujourd'hui même.
M. Dumont, qui est le propriétaire de la compagnie qui offre le service, donc ce n'est pas une société de transport public comme dans plusieurs villes. Est-ce que c'est difficile lorsqu'on est à la merci, justement, de l'entreprise privée, que ce soit dans cette situation-là ou dans d'autres situations?
Non, je dois dire que M. Dumont, il est très dédié quand même à la clientèle qui est en perte d'autonomie ou la clientèle avec un handicap dans la région. Donc, c'est certain qu'il y avait une situation qui était problématique, mais M. Dumont était quand même très dédié à cette clientèle-là. Donc, pour lui, c'était difficile pour lui de prendre la décision de cesser son service le 4 novembre.
Ouais. Bon, au départ, le litige était à l'égard d'un permis parce que M. Dumont voulait avoir un autobus fonctionnel, adéquat, et le ministère ne voulait pas donner la subvention pour un manque de permis. Est-ce que enlever ce critère-là ou comment ça s'est réglé? Le savez-vous?
Ce critère-là, il a été modifié.
OK.
Pour permettre, parce que dans une région comme la nôtre, dans des régions isolées, éloignées, c'est difficile d'avoir tous ces permis-là. Donc, il y a une dérogation qui était demandée pour que ce transporteur-là puisse offrir le service sans avoir ce permis-là. Donc, M. Dumont étant en attente que le dossier se règle. Ça a quand même duré un petit bout de temps, là. Mais ils ont fait une dérogation au niveau du règlement pour permettre à M. Dumont d'offrir le service sans le permis.
Environ combien de kilomètres sont couverts par le territoire du transport adapté de Blanc-Sablon?
À peu près 10-12 kilomètres.
OK.
Parce qu'il couvre la municipalité de Blanc-Sablon, mais M. Dumont aussi peut être appelé à faire du transport dans la municipalité voisinante, qui est la municipalité de Bonne-Espérance. Mais le programme de transport adapté il est juste accepté dans la municipalité de Blanc-Sablon au moment qu'on se parle.
Donc, si quelqu'un veut aller visiter un ami à Bonne-Espérance, il ne peut pas le faire en transport adapté actuellement?
Il pourrait le faire en transport adapté, mais ce n'est pas un programme qui est couvert actuellement par les règles du transport adapté. M. Dumont offre le service quand même en privé.
Donc, ce serait, disons, comme un taxi ou un Uber.
Oui,
OK, je comprends.
Oui.
Est-ce qu'on a une idée du nombre d'utilisateurs du TA dans votre coin?
Dans ma municipalité, j'ai 12 utilisateurs réguliers. Okay. En plus, ce service-là, il est aussi utilisé par le CIS
okay.
pour faire du transport d'usagers de l'hôpital mm-hmm. à l'aéroport. On a aussi une ressource intermédiaire qui est dans le village de Lourdes-de-Blanc-Sablon. Ce service-là est aussi utilisé par la clientèle hébergée. Donc, ça ne fait pas nécessairement partie du 12 usagers ouais. qui utilisent le service régulièrement. En plus des 12 usagers, il y a quand même une autre clientèle qui est le service hospitalier et aussi la RI qui utilise le service.
Et le nombre d'heures de service offert par semaine?
Ça dépend parce que ça fluctue. Les heures sont jamais pareilles. On a un jeune handicapé, un jeune enfant handicapé qui utilise le service régulièrement pour l'activité parascolaire. Mm-hmm. Lui, c'est quasiment tous les jours, tandis que tu peux avoir d'autres personnes, c'est une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Ça dépend de la demande. Puis il y a du monde qui sont à domicile aussi, qui sont dans le programme de soutien à domicile, qui utilisent ce service-là aussi pour aller à l'hôpital pour avoir des services. Des services médicaux.
Mais est-ce que je comprends donc que les heures de service sont tributaires des demandes et non c'est entre 9h et 19h et si vous voulez du transport adapté, il faut faire vos rendez-vous à l'intérieur de cette plage-là?
Je dois dire que M. Dumas est assez flexible quand
wow.
même. Habituellement, il y a une horaire qui est flexible, là, mais M. Dumas peut être appelé à faire du transport la fin de semaine et tout, puis ouais. dans la mesure du possible, il essaie d'accommoder la clientèle.
Combien de temps d'avance faut-il le réserver?
Je dois dire des fois une journée d'avance,
okay.
c'est suffisant. Ouais, et des c'est... fois, c'est la même journée aussi.
Ah
ça
oui,
dépend,
hein? okay. oui, oui, c'est ça, il y a cette flexibilité-là à 12 oui. personnes, c'est oui. quand même assez... Et est-ce que c'est lui qui fait tous les transports ou il y a des employés?
C'est lui parfois qui le fait, des fois c'est un de ses fils.
Donc tout le monde se connaît, là?
Oui, oui, oui. On est vraiment dans ce petit milieu-là. C'est un milieu où ce que tout le monde là, se connaît aussi. Là. Puis c'est un service aussi, là, juste pour vous donner un exemple, comme durant les fêtes de Noël et tout, là, mm-hmm. tu peux appeler M. Dumas la veille, puis il va aller chercher ta personne à l'hôpital pour le ramener à domicile. Okay.
Oui, puis de toute façon, c'est vrai que c'est compliqué parce que lui, il veut fêter Noël, mais les personnes handicapées aussi veulent se déplacer ouais. pour aller chez des amis à des drôles d'heures de la nuit ou du matin ou... Donc, ça, c'est pas toujours évident. La population à Blanc-Sablon?
Le nombre de population?
Oui.
À peu près 1100 de population okay. dans la municipalité de Blanc-Sablon.
OK. Puis, je suis curieux, bon, au niveau des je sais pas, c'était pas prévu, puis si vous le savez pas, c'est correct, là, vous êtes mairesse de l'ensemble de l'œuvre et non de spécifique. Mais, disons, les services offerts aux personnes handicapées, est-ce qu'il y a des services de réadaptation? Si quelqu'un veut apprendre le braille, est-ce qu'il doit aller à Bécomo? Comment ça fonctionne?
C'est certain que les services sont offerts aux personnes handicapées, c'est offert par le CIS.
Oui.
Il y a aussi des services qui sont accessibles via l'éducation. C'est certain qu'on a quand même plusieurs services en région. Il y a de la réadap, il y a un technicien en réadaptation. Habituellement, il y a une ergothérapeute en région aussi qui est disponible pour offrir des services via le CIS aussi. Il y a des programmes d'aménagement de domicile via les municipalités, dont moi, je l'offre via la municipalité de Blanc-Sablon. Tous les programmes d'SHQ. Donc, ça, c'est disponible aussi à Blanc-Sablon.
Bon, question d'ignorant, là. La route se rend jusqu'où et donc on se rend pas chez vous par la route?
Nous, on est privilégiés à Blanc-Sablon parce que nous, on peut partir de Blanc-Sablon, faire le tour du Labrador, revenir au Québec.
Boy,
donc moi, la route vient jusqu'à Blanc-Sablon.
Mais ça prend combien de temps faire le tour du Labrador pour revenir au Québec?
À peu près une vingtaine d'heures.
Ça, c'est un privilège, ça. Ben, écoutez...
Mais c'est un privilège parce qu'on, à comparer aux autres villages isolés de la Basse-Côte, c'est un privilège parce que nous, il y a la route qui peut nous amener jusqu'au Québec.
Okay.
Ailleurs, sur le territoire de la Basse-Côte-Nord, ils n'ont même pas cette opportunité-là. Mm-hmm. La seule façon de sortir, c'est par bateau ou bien par avion.
Okay.
Donc, c'est un privilège qui est dur quand même, là, parce que... Une vingtaine de route, c'est quand même long, mais au moins, tu as cette possibilité-là.
Et on aboutit où au Québec une fois qu'on quitte le Labrador puis qu'on a fait le tour?
On part de Blanc-Sablon, on va à Goose au Labrador. Après ça, Labrador, Cité, Fermont, Bécomont.
Wow. OK. Mm. OK. Ben, en tout cas, moi, ça m'intrigue. On va continuer nos communications avec votre territoire. On va essayer de parler peut-être au CIS ou voir quels sont les services. C'est assez, assez particulier. Mais tant mieux, en tout cas, si la situation s'est résorbée. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Je veux signer un autre dossier aussi qu'on travaille dessus en Basse-Côte-Nord, surtout à Blanc-Sablon. Nous, on a un aréna à Blanc-Sablon aussi qui n'est pas accessible actuellement pour les personnes avec des handicaps. Donc, c'est un dossier qu'on travaille comme municipalité avec un comité là, de loisirs pour essayer d'avoir un lieu de rencontre accessible aux personnes handicapées.
Donc, ce serait quoi? Ce serait d'installer un ascenseur dans l'aréna?
Dans l'aréna.
Pour que les gens puissent aller dans les vestiaires, puis ensuite aller à la patinoire.
Puis aussi, toutes les activités se passent au deuxième étage dans cette bâtisse-là.
Ah,
okay. Puis cette bâtisse-là n'est pas accessible. Donc, tout ce qui est activité sociale se passe là. Donc, c'est un dossier qui nous tient à cœur énormément. Bon. On a présenté un projet à deux reprises au plan Nord, mais il a été refusé les deux fois.
Mais lâchez pas, Mme Beaudoin.
C'est certain qu'on ne lâche pas.
C'est apprécié. Vous avez mon vote, même si c'est un peu loin. Wanda Beaunois, qui est mairesse de Blanc-Sablon. Un peu de musique, celle de Matt Holibowski. Je demanderai à Jean-Sébastien au retour là, comment lui prononce le nom de famille du gars en question.
She walked sprightly through the flowery thoroughfare. Though it may as well have been anywhere for a smile be down. On leathery faces like turning back pages, I can see her words fogging up my mind again, but I trace no smile. With another ship I'll get to the bottom. She's gone to love. I live madly
Jean-Sébastien, as-tu déjà été sur la base Côte-Nord?
Je suis déjà allé à Sept-Îles, c'est le plus haut que je suis allé, ou le plus bas que je suis allé.
Toi, tu dis Holubowski?
Oui, Holubowski.
OK, parce qu'il y aurait pu Holubov, W-S-K-I, j'étais pas trop sûr. En tout cas, deux Québécois aujourd'hui qui chantent en anglais avec Matt et Sonia. Madame Johnson, qu'on a entendu un petit peu plus tard. Bon, tout de suite, là, je veux remercier Caroline Janet et Maxime Saint-Pierre. Caroline, qui est directrice générale radio-audio, pas le OH, mais le AU, et Maxime, qui est directeur général des services numériques. Vous savez peut-être, de toute façon, j'en ai parlé il y a deux semaines, j'ai vu que le RAM a envoyé une lettre. J'ai vu également des amis qui m'ont dit qu'ils avaient écrit. On est vraiment déçus du nouveau RC Audio, pas nécessairement de l'application avec ce qu'elle pourra nous apporter comme service éventuellement, mais qu'elle ait été lancée sans qu'on ait pu rencontrer les critères d'accessibilité, ce qui fait que ben, y a une partie de la population là, qui n'a pas accès. Surtout qu'il y a des balados qui ne sont pas, disons, sur Apple ou sur Spotify, qui sont uniquement sur cette appli-là. Alors, ben, on est obligé d'attendre. Donc, Caroline, jamais, Maxime Saint-Pierre, merci d'être là parce que vous le savez que je ne suis pas content. C'eût été facile de juste trouver une excuse, alors j'apprécie beaucoup, beaucoup. Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a lancé une appli qui n'est pas accessible pour tout le monde?
Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un projet sur lequel on travaille depuis un an et l'accessibilité a toujours fait partie des plans. Mmh. D'ailleurs, j'aimerais préciser que quand on a lancé l'application, tous les utilisateurs Android ont eu accès à l'accessibilité. Donc, ça a été prévu dans les plans et ça a été lancé avec l'accessibilité pour les usagers Android. Maintenant, dans la foulée des... Vous savez, un projet comme celui-là, c'est un immense projet qui demande énormément de travail. Et dans la foulée des derniers moments là, de développement de l'application sur iOS, donc les produits Apple, il y a eu malheureusement un retard à certains niveaux et ça a créé un effet domino. Alors, il y a des choses qui n'ont pas pu être disponibles au moment du lancement, mais ce sont des choses qui étaient prévues et qui ont été donc décalées dans les jours qui ont suivi. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui va être disponible là, au cours des prochains jours parce que ça faisait partie là, du... On appelle ça le roadmap. Là, j'essaie de trouver le mot en français, peut-être. La feuille de route, voilà. Okay. Donc, ça a toujours fait partie de la feuille de route, mais il y a eu des impératifs de production vers la fin qui ont fait en sorte que sa vie, c'est des choses qui arrivent. Et malheureusement, donc, ça n'a pas été possible pour la date de lancement où tout était ficelé avec... Ouais. Alors, mais je comprends tout à fait la déception et peut-être que ce qu'on aurait dû faire, dans le fond, c'est d'avertir les gens en amont. Puis vous avez tout à fait raison.
Émettre un communiqué disant, bon, on est conscient d'ici au 30 novembre, on souhaite... Un peu comme Netflix qui disent, toutes nos productions sont en vidéo description, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en vidéo description le jour du lancement de notre production. Donnez-nous un mois et revenez voir chaque semaine si la version avec audio description est disponible. Puis, c'est vrai que ça arrive, là, je veux dire, Apple avec son iOS 13 là, nous donne des maux de tête, ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu avec une voix française parce que la voix canadienne-française est tout croche. Puis on est, même si on est rendu à 13.2.2, ils n'ont toujours pas corrigé, bon, puis l'option balado et tout et tout. Donc, on comprend que ça arrive, mais c'est ça. Si la prochaine fois, c'était possible de nous prévenir, parce qu'on s'est senti mis de côté. On s'est senti un peu comme le train de l'Est, où il y avait 3 gares sur 15 qui étaient accessibles à l'ouverture du train de l'Est. Il y a des gens qui se sont sentis laissés sur le quai de la gare.
Mais je comprends, puis je pense que c'est... En fait, c'est pour ça qu'on est content aussi d'être ici aujourd'hui pour en parler, parce que c'est une déception et elle est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça que, en fait, on est content aussi de vous dire que ce travail-là a été fait. Et peut-être que mon collègue Maxime peut vous donner plus de détails sur le dépôt qui va être fait. Puis l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on a pensé aussi améliorer l'expérience dans l'application audio. Donc, l'expérience, elle est améliorée au niveau de l'accessibilité. Alors, donc, ça prenait aussi un travail supplémentaire parce que notre but aussi, c'était justement de passer à une nouvelle étape au niveau de l'accessibilité. Puis c'est peut-être que Maxime pourrait donner un peu plus de détails pour les usagers.
Ben, j'ai envie, Maxime, de vous poser des questions, à savoir, bon, un des petits problèmes qu'on trouvait toujours sur ICI, sur Statut ICI Première ou RC Première, je ne suis plus sûr, là, mais l'application de la première chaîne, c'était entre autres lorsque venait le temps de choisir une région qu'on voulait écouter. C'était pas simple, on ne pouvait pas juste balayer à droite, fallait se promener. Là. Est-ce que ça va être réglé? Si on veut écouter Thunder Bay, non, il n'y a pas d'antenne à Thunder Bay, mais disons le nord de l'Ontario, est-ce que ça va être facile de trouver le nord de l'Ontario pour une personne aveugle?
Bien, dans l'application, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système pour détecter la région de facto. Donc, dépendamment d'où sont les gens. Okay. Et ensuite, par la suite, si les gens veulent accéder pour changer la région, c'est possible de le faire. Puis dans l'enjeu qu'on a en ce moment dans l'application, c'est que le lecteur d'écran n'est pas disponible de façon optimale. C'est pour ça qu'on s'en... On s'apprête à lancer d'ici quelques jours la version qui sera mise à jour, qui va contenir aussi tout le détail de ce qu'on va lancer. Donc, on parlait de communication tantôt. Ce que nous, on a un mea culpa à faire, c'est que ça n'a pas été communiqué. Puis, dans la mise à jour sur les App Store, par exemple, tous les changements vont être faits. Puis, vous disiez en début d'entrevue que iOS 13 était problématique pour vous. Il l'est pour nous aussi. Ouais, hein? Donc, mais il reste que des fonctionnalités supplémentaires comme le Magic Touch, entre autres, qu'on va rajouter, qui dans le fond nous permet de...
Qu'est-ce que c'est?
Le Magic Touch, ça permet rapidement au niveau du player audio de pouvoir le contrôler facilement avec les doigts sans nécessairement aller retourner dans le lecteur d'écran. Donc, il va y avoir des fonctionnalités tactiles aussi qui vont être ajoutées.
Pour avancer, disons, dans le reportage ou reculer.
Exactement. Okay. Donc, c'est le genre de fonctionnalité que quand on regarde le travail qu'il y a à faire, puis les standards ne sont pas les mêmes avec Apple et Google, donc avec la version Android, bien, c'est les éléments de plus qu'on doit adresser si on veut lancer un produit de qualité.
De toute façon, ça, c'est une des choses qu'Apple nous a retirées depuis iOS 13. C'est qu'on ne peut plus jouer, disons, de 10 minutes en 10 minutes dans un reportage. Alors là, tu avances de 30 secondes pour sauter l'entrevue de Jean-Philippe Vautier. C'est long. Bon, ça, ça va pour ce qui est le fun, de ce que je comprends, c'est qu'ICI Musique est... unifié à ICI Première, à l'application, disons, de Première Plus. Tout est tout en un.
Exactement. En fait, ce qu'on a voulu créer, c'est une destination unique pour tous les contenus de Radio-Canada, qu'ils soient parlés, qu'ils soient musicaux, donc des émissions de musique, mais que ça soit aussi des balados, des listes d'écoute, des livres audio. Il y a vraiment toute une panoplie de produits audio qui sont disponibles, mais ils étaient séparés auparavant, soit dans une marque ICI Première, pour tout ce qui était parlé et tout ce qui était musique, c'était sous ICI Musique. Alors, présentement, l'application ICI Musique est encore disponible pour quelques semaines.
Heureusement, ça me permet de l'utiliser même si.
Et puis, dans le fond, audio, ce que c'est pour un auditeur, donc dans le fond, simplifier l'expérience, donc d'avoir une seule destination et il y a des rails qui sont horizontaux qui sont organisés par catégorie et on peut retrouver facilement. Donc, on a voulu faire quelque chose d'intuitif et aussi très, très riche pour créer, dans le fond, une destination, comme je disais, francophone de qualité avec toutes les émissions radio qu'on trouve sur les deux antennes, les balados. On a lancé d'ailleurs 10 nouveaux balados à l'occasion du lancement et il y en aura encore d'ici Noël qui vont être lancés. Alors, on se lance vraiment dans la production balado. Il y a aussi les livres audio. On a une centaine de livres audio. Il y a 200 listes d'écoute musicale qui sont disponibles aussi par genre, donc que ça soit du jazz à musique classique, etc., etc. Il y a aussi une antenne de musique classique qui s'appelle ICI Musique Classique, qui est disponible également sur l'application. Donc, en fait, c'est toute la richesse de cette offre-là qui se retrouve sur audio, et c'est Radio-Canada Audio, donc c'est AUDIO ou bien OHDIO, selon si on l'épelle avec la marque ou non.
Savez-vous si ceux qui ont des assistants vocaux, que ce soit comme ICI Classique, j'ai essayé avec mon Alexa, elle ne le trouve pas, le ICI Classique. Elle va trouver ICI Musique. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on va en arriver là aussi?
Je me permets de prendre la parole. On travaille beaucoup avec les Amazon de ce monde, les Google, etc. Ils ont chacun leur propre recette pour que ça fonctionne. Donc, sans dire que c'est impossible, c'est un casse-tête. Mm-hmm. Puis oui, on travaille à ce qu'au niveau vocal, ça soit le plus facile pour l'utilisateur possible de pouvoir demander les contenus qu'il aimerait écouter. Puis Amazon n'a pas les mêmes règles que Google. Donc, sans dire qu'on nage dans le chaos, et on s'y prend plaisir à décoder tout ça, mais il reste que c'est une réalité. Mais oui, l'objectif, c'est que ça soit disponible le plus facilement possible.
Et en terminant, je sais que c'est pas dans vos départements, mais juste au cas où vous ayez entendu des choses dans la boîte, est-ce qu'on avance pour offrir tout TV avec vidéo description? Parce que là, si tu as manqué ton émission, tu ne peux pas ni la trouver sur Illico, ni sous tout.tv avec la vidéodescription.
Ben, je vais me permettre de prendre la parole,
Maxime.
Aussi. Donc, sur tout TV, l'an dernier, on a fait un projet pilote justement pour ajouter la vidéodescription sur certains contenus pour pouvoir tester, s'assurer, parce que c'est très modulaire le numérique. Donc, on commence petit, on teste, puis si c'est concluant, ben, par la suite, on est en mesure de faire le roll-out. Okay. Dans ce cas-là, on a commencé le travail, puis c'est un travail en continu.
Mais est-ce qu'il y a des émissions qui le sont? Est-ce que...
De mémoire, il y a une émission jeunesse là, qui me vient en tête, mais je sais qu'il y a des contenus de plus en plus qui vont avoir la vidéo description. Ça dépend toujours de la capacité aussi de la plateforme à le faire et le type d'émission.
Donc, c'est pas la popularité. Là. C'est pas « dites-le à vos amis, puis s'il y a beaucoup de gens qui écoutent, on va le faire, c'est autre chose ».
En ce moment, on y va vraiment une pièce à la pièce, donc une pièce à la fois. Ouais.
Maxime Saint-Pierre, directeur général des services numériques. Caroline Jamais. Jamais ou Jamette?
Jamais.
Avec MET, directrice générale radio audio. Merci beaucoup. On attend ça d'ici le 1er décembre. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Tu restes là. Nous, on a un autre petit quelque chose à faire de 30 minutes où il sera question de balado-diffusion pour les accès libres. À la semaine prochaine.